s'appuie sur toi, Seigneur, toi qui délies les enchaînés et redresse les accablés. Alléluia.
Alléluia.
C'est avec vous
et avec vous.
Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Il y avait là une femme. Elle était possédée par un esprit mauvais qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée, absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella. Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. Puis il lui impose les mains et à l'instant même, elle se trouva toute droite. Et rendez gloire à Dieu. Le chef de la synagogue fut indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat. Il prit la parole pour dire à la foule : il y a 6 jours pour travailler. Venez donc pour faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Le Seigneur Jésus lui réplique : esprit faux que vous êtes, n'est-il pas vrai que le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée il y a 18 ans, n'est-il pas vrai que le jour du sabbat, il fallait la délivrer de ce lien? Ces paroles de Jésus couvraient de honte tous ses adversaires. Et la foule tout entière était dans la soie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur.
Que ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes, qui nous lave de toutes nos fautes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Louange à toi, Alléluia.
Louange à toi, Alléluia. Louange à toi, Alléluia.
Louange à toi,
Alléluia. Louange à toi, Alléluia. Louange à toi, Alléluia.
À ton évangile, Seigneur, répande son parfum. Sa liqueur sublime et son onction céleste dans toute la terre. Ouvre une porte en chacun de ceux qui sont assoiffés de perfection céleste et divine. Que les portes s'ouvrent autour de cette terre devant la Jérusalem d'en haut. Libère-nous de toute entrave. Éloigne-nous de toute faute. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. 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 Amen.
La parole de Dieu est un glaive de feu. parole de Dieu est plus pure que l'or. La parole de Dieu est le pain des croyants. J'étais étonné quand j'ai fait le tour tout à l'heure. Pas un seul. C'est les cathos les plus branchés de tout l'univers. Mais je n'avais lu la Bible, pas un seul n'avait lu la proclamation de. Et pas un seul non plus. Ça, c'est. Je pensais qu'il y aurait quand même un, deux ou trois, quand même. Je sais pas. Des fleurs exceptionnelles de Paris-Monial, du Puy-en-Velay, enfin, je sais pas, de Saint-Joseph. Rien. C'est quand même, c'est étonnant. La parole de Dieu. La parole de Dieu, elle dit, la parole de Dieu, on se nourrit, c'est vrai, on se nourrit de l'Eucharistie, c'est vrai, on se nourrit de la volonté éternelle du Père dans l'union transformante, c'est déjà bien. Mais la parole de Dieu est une nourriture. Dans l'Évangile de Saint Jean, il y a trois nourritures. La parole de Dieu est une nourriture. C'est une nourriture, on s'en nourrit. C'est puissant la parole. C'est pas que ce soit puissant, c'est une nourriture. Donc, elle réalise ce qu'elle signifie. Nous prenons la parole de Dieu. Remarquez bien, quand on va écouter le Saint-Père, on va écouter, entendre et se nourrir de la parole de Dieu. On boit ses paroles, comme on dit, n'est-ce pas? Bon. On est tout suspendu, il fallait voir au Liban, on était suspendu. Qu'est-ce qu'il dit? La moindre parole, même si ce serait sorti de la bouche de n'importe qui d'autre. Ça ne serait pas nourri, mais ces mêmes paroles sortant de sa bouche, ça nourrit, ça on dirait presque, ça nourrissait la terre elle-même, le sable. C'est vrai, c'est génial, hein, la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui parle, c'est formidable. C'est la parole de Dieu est un... J'aime bien là, en chanter ça, la parole de Dieu est un glaive de feu. La parole de Dieu est plus pure que l'or, la parole de Dieu est le pain des croyants. Peut-être que quand on fait le carême, pour ça l'Église elle dit, vous voyez, quand on fait le carême, quand on rentre dans l'Avent par exemple, il faut faire un carême. Normalement, on doit faire 40 jours de jeûne avant Noël. 40 jours de jeûne avant Pâques. Bon, ok. Voilà. Mais si vous voulez moins manger, c'est très simple. Il suffit de dire la parole de Dieu, on a trois fois moins faim. Parce que la parole de Dieu est le pain des croyants. D'un glaive de feu, plus pur que l'or, c'est le pain des croyants. On dit quand même, attends, c'est l'heure du repas, on va quand même manger, d'accord? Mais n'empêche qu'on pourrait très bien s'en passer, sans aucun problème. On le fait parce que, par amour du prochain, on passe à table quand même. C'est extraordinaire. C'est pour ça que les saints sont toujours très gros. Je ne parle pas de... Il y en a d'autres qui sont gros par vice. Vous en avez une icône éclatante. Hein, c'est beau ça, de savoir. La parole de Dieu est une... C'est vrai, si quand on se nourrit de l'Eucharistie, c'est une nourriture, et que ça nous nourrit. Qu'est-ce qu'on va y passer à table après? On le fait quand même. Faites l'expérience de prendre, puisque vous dites, on ne lit jamais la Bible, ben c'est incroyable. Faites l'expérience de prendre, c'est génial de prendre la Bible et puis de lire à haute voix, en chantant même. C'est beau à chanter, hein, l'évangile. Hein? Pourquoi les enfants qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu, ils ont le droit de l'entendre? Vous pouvez y aller à tue-tête. Hein? Non, bon, faites attention aux voisins quand même, parce que les pompiers sont pas loin. Mais d'accord, bon, ça fait rien. Dites à mi-voix, c'est pas grave. Ça suffit du moment que votre cœur le dit avec une force, le cri qui resplendit. Ah oui, c'est la voix, c'est génial. Même si elle est très douce, même si elle est très inaudible, la voix, elle fait des ondes comme ça. Et quand vous dites quelque chose, hein, si vous le faites spirituellement, hein, quand votre voix elle dit quelque chose comme ça, les ondes vont jusque, elle devient tachyonique. Les ondes deviennent tachyoniques. Si c'est spirituel, hein, si c'est surnaturel, si c'est dans l'univers naturel de la foi. Alors à ce moment-là, les ondes elles vont comme ça. Et elles ont entendu, mais il y a des, j'avais lu un truc, c'est dans une revue scientifique là-dessus. Et ça va jusqu'au fond, jusqu'au fond, jusqu'au fond, jusqu'au fond du Big Bang là-haut. Très loin. Hein. Votre voix s'entend jusque là-bas. Un petit peu comme l'homéopathie. Attention, je fais pas l'éloge de l'homéopathie, mais l'homéopathie se dilue, puis se dilue, se dilue. Et plus c'est dilué, plus ça s'entend dans le corps spirituel. Enfin, dans le corps ontologique, dans le corps cosmique. C'est chouette de comprendre ça. La parole de Dieu n'est pas pour nous. Elle est pour. Elle fait de nous. Elle nous nourrit. Puis en plus, c'est la preuve. L'attente, bon. De toute la matière vivante, mais aussi de la matière élémentaire. Et puis du monde du ciel spirituel lui-même, hein, c'est normal. L'évangile n'existait pas. Il a bien fallu que les anges l'entendent la première fois. Les anges de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture. C'est une vraie nourriture. C'est un glaive de feu. C'est elle est plus pure que l'or, ça c'est sûr. Allez, le pain des croyants, ça c'est une évidence. Voilà. Dire la parole de Dieu, une demi-heure, c'est bien, une demi-heure de suite. On dit quand même, c'est extraordinaire, célébrer la parole de Dieu, la dire comme ça, s'en nourrir, on la lit, s'en nourrir. Parce que le fait de la dire, qu'elle revienne sous forme, j'allais dire, de lumière dans nos oreilles, dans notre âme, dans l'âme de toute. De tous les sourds, la matière est sourde, mais elle entend la parole de Dieu. Le monde est courbé, mais il se redresse en écoutant la parole de Dieu. La créature tout entière de l'humanité est toute courbée par l'Antichrist 666, 6 fois, 6 fois, 6 fois, 18 ans. Elle est toute courbée, elle ne peut pas se redresser. Mais à la parole de Dieu, elle se redresse. Parce que la parole de Dieu, c'est l'expression de l'union hypostatique déchirée de Jésus dans le cri de Marie, qui est l'évangile du royaume de Dieu partout. Et chaque parole de Dieu, eh bien, elle est entendue comme cela. Alors, on va le dire pendant une demi-heure, hein, et on va se rendre compte qu'au bout d'une demi-heure, ça y est, l'assimilation. Comment dire, l'assimilation du corps, de l'âme, de l'esprit, du cœur est faite. Et donc, voilà, le recueillement est possible, la paix aussi. Et donc, le silence du Verbe peut s'exprimer et on peut rester la demi-heure suivante dans l'union transformante. Excellent. Excellent de faire comme ça. Enfin, c'est ce que le pape Benoît XVI voudrait. Que la préparation lointaine et la préparation prochaine, ainsi que la préparation immédiate, ce soit de se nourrir de la parole de Dieu. C'est le pape Benoît qui dit ça. Très bien, c'est l'année de la foi. Pourquoi ? Parce que la nature humaine tout entière, l'humanité tout entière a besoin de se redresser. Pourquoi ? Parce que la parole va être prononcée. Jésus va nous voir dans le sabbat. Du cinquième saut de l'Apocalypse, il va dire une parole unanimement dans la synagogue de l'humanité courbée, sur le poids du méchaume, et toc, tout va se redresser d'un coup. Mais il n'y a que les hypocrites qui y trouveront à redire. Hein. Mais la joie sera dans le peuple tout entier, tous les Chinois dans l'allégresse profonde, d'une allégresse transformée. Et à ce propos, les Chinois, c'est la croix glorieuse viendra de l'Orient jusqu'à l'Occident. Au départ, vous savez, Au départ, Jésus était poussé par l'Esprit Saint, de passer de Bethléem à Nazareth. Et puis à nouveau de Jérusalem à Nazareth, puis à nouveau de l'Égypte jusqu'à Nazareth. Parce que Nazareth, c'est la Galilée, c'est la terre de la multitude des fils de Gad qui hérite tout, de l'unité, de toutes les bénédictions d'Israël, d'Adam, d'Abraham, de Joseph, de David. Et c'est dans la Galilée, Cana, tout ça. C'est extraordinaire cette terre-là, c'est de la Galilée. En Galilée, on parlait plus hébreu, hein. On parlait araméen, vous savez ça. C'est araméen qui se faisait comprendre d'ailleurs en Égypte, qui se faisait comprendre à Jérusalem, qui se faisait comprendre en Grèce, qui se faisait comprendre, qui se faisait entendre partout, les endroits où étaient passés les sages, les fidèles d'Israël qui voulaient pour rester fidèles, aller partout dans le monde pour rester fidèles, en s'exilant, en sortant toujours d'eux-mêmes. Ils allaient jusqu'à la Gaule. C'est eux qui ont fondé, si je puis dire, la sagesse extraordinaire du royaume des Scythes, de Perse, tout ça. Ils allaient même jusqu'à Shanghai, jusqu'au fond de la Chine. Donc quand l'évangile a été proclamé de la Galilée en araméen partout, l'évangile a été apporté jusqu'au fin fond de la Chine. Et les premiers rois de la terre, les premiers empereurs qui ont demandé le baptême, c'était les empereurs chinois. Jusqu'au 5e siècle. C'est la France qui a pris le relais en 496. Mais la Chine était chrétienne. Encore aujourd'hui, voyons, on dit, mais non, la Chine était bouddhiste. Il n'y a aucune trace épigraphiste du bouddhisme de Bouddha en Chine avant le 3e siècle, après Jésus-Christ. Aucune trace possible. Alors, les empereurs se faisaient enterrer de Chine, les empereurs de l'Orient se faisaient enterrer avec les évangiles. Vous savez, c'est pas enseigné dans les écoles de Mao Zedong. L'araméen se parlait partout. C'était la langue, vous allez dire, commerce. Oui, un peu comme, je ne sais pas, c'est extraordinaire. Nous, on ne s'y attend pas. Quand on va au Liban, on voit qu'ils parlent tous le français. Quand on va à Antioche, ils parlent français. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va à Bagdad, à Mossoul, ils parlent français. Ça nous surprend. On dit, normalement, ils doivent parler anglais quand même. Les gens disent, non, c'est français. Dès que c'est avec Jésus, c'est français. Ah, si c'est l'histoire de banque, c'est une autre langue. C'est le latin, c'est... À l'époque, c'est la langue romaine, tout ça, la langue de l'Empire, mais... Voilà, mais tandis que l'araméen, c'était une langue... C'est une langue sainte, c'est une langue simple, c'est une langue répandue, c'est une langue assez monosyllabique, hein, et qui se parlait de partout, finalement. Celle dans laquelle l'Évangile a été écrit, prononcé, proclamé. Jésus a donné tout ses enseignements en araméen. La parole de Dieu, vous voyez, et elle s'est répandue comme ça jusqu'au fond de l'univers, jusqu'au fond, de partout. Alors on voit ce tombeau où il y avait 107 disciples du Seigneur, on voit Jésus. Enfin, c'est en Chine, au fin fond de la Chine, qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous voyez, oh ben, soyez attentifs, regardez, c'est des choses toutes qui ont une signification quand même. C'est pour ça, si on prend autorité sur la Chine, quand même 2 milliards de chrétiens en Chine, ils sont chrétiens forcément. Il n'y a pas de cause diminuante dans la grâce. Donc on peut aussi leur apporter l'expression « Lisons la parole de Dieu, hein ». Elle sera entendue. Prenez autorité là-dessus. Elle sera entendue par les racines de chacun là-bas. Lire la parole de Dieu, c'est la nourriture du corps mystique de l'Église. Et nous, nous sommes les membres vivants du corps mystique de l'Église. On est la bouche de l'Église. C'est par où l'Église, le corps mystique de l'Église est nourri. Oui. C'est pour ça que si vous faites une demi-heure de lecture, le Saint-Père vous dit indulgence plénière. C'est génial. Toutes les conséquences de vos fautes sont totalement effacées. En une seule fois. Mais c'est pas pour ça, c'est pas pour gagner l'indulgence. C'est un résultat que l'Église vous enseigne, c'est tout. Vous avez l'intention de l'immense réparation, parce que quand vous assimilez la parole de Dieu, eh ben, vous devenez la parole de Dieu, vous devenez la transverbération elle-même. Et donc on se nourrit de la parole de Dieu. C'est quelque chose, oui, je connais quelqu'un un jour, il disait, je ne dirais pas où, mais un endroit très 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 connu. Et la Vierge était là, elle s'est montrée à nous, elle pleurait. Alors, pourquoi est-ce que vous pleurez? Parce que mes enfants ne lisent pas la Bible. La seule fois, oh, ils avaient vu tellement souvent la Vierge venue du ciel, dans une paix formidable, magnifique, sérénité inouïe, royauté communicative, simplicité énorme. Mais là, pour la première fois, elle pleurait parce que mes enfants ne lisent pas la Bible. Alors, si la Sainte Vierge pleure, on pourrait imaginer que c'est pour autre chose. Parce que, je sais pas moi, quelquefois on est surpris, hein. On va être surpris, pourquoi est-ce que elle pleure? Elle pleure pour ça. Quand j'ai giflé ma mère, si tout le monde giflait sa mère, elle serait là, elle dirait, voilà, je viens vous donner la paix. Mais elle pleurerait pas. Mais on ne lit pas la Bible, elle pleure. Ah oui, moi je trouve que c'est bien ça. Enfin, je ne sais pas, ça m'a fait quelque chose quand j'ai entendu ce séminariste dire ça. Et les autres aussi étaient là avec lui. La parole de Dieu se redresse d'un seul coup. Ouais, c'est facile à comprendre, à interpréter. En plus, sous de l'Esprit Saint, quand vous lisez la parole de Dieu, vous savez, même si vous ne pouvez pas. Vous sentez 18 ans tout de suite, tout le monde comprend, 18 ans, tout le monde comprend, c'est 6, 3, 6, 18, donc c'est l'humanité au moment de l'heure de l'Église, dans la synagogue, hein, dans la maison de Dieu, le peuple de Dieu, tout rassemblé, il y a la femme qui est là, celle qui est courbée sous le poids d'Antichrist, impossible de se redresser, c'est vraiment nous. Et je comprends très bien que ceux qui s'estiment être des conducteurs du peuple de Dieu, enfin des conducteurs, oui, ou des conseilleurs, vous savez.
Conseillers plutôt.
Les conseilleurs du peuple de Dieu, les conseillers. Mais c'est pour ça que je dis conseiller exprès. Tu vois, les Hokmei et Talmud qui étaient là, les Perushim qui étaient là. C'est les conseillers, c'est les... Ils sont pas contents, parce que si toute l'humanité se redresse, c'est les Chinois qui vont se retrouver ensemble. C'est les musulmans. Qui vont apporter explicitement le baptême du règne du Sacré-Cœur dans le monde nouveau. Les catholiques, Est-ce qu'il y en aura ? Peut-être qu'il y en aura quelques-uns, mais ce sera peut-être infime. Je ne sais pas, j'en sais rien. J'en sais rien, je ne fais pas de pronostic. Le peuple tout entier se réjouira de cette action éclatante du Père par la parole du Fils dans l'universalité du redressement de l'humanité tout entière oppressée sous le poids du méchant. Ça, c'est clair, vous voyez, c'est simple. C'est simple à comprendre. Enfin, on ne cherche pas à comprendre, d'ailleurs. On lit la parole de Dieu et elle fait que notre oreille primordial entend et comprend et voit. Même si mon oreille adulte et psychique entend, ne comprend pas et ne voit rien, eh bien mon oreille primordiale, elle, qui est toujours là, elle entend, elle reçoit, elle comprend et elle voit. C'est pour ça que vous lirez toujours la parole de Dieu. Et la racine, elle, se voit à la profondeur de l'oreille, de l'écoute, dans l'endroit où on reçoit la présence de l'ordre. C'est ça l'oreille primordiale. Elle entend, elle perçoit, elle voit. La parole de Dieu est une richesse insondable et elle nourrit le relèvement de notre de notre présence, de notre accueil, de notre disponibilité à la présence du Père, la présence de l'autre, la présence du prochain, la présence de l'humanité tout entière. Ça est merveilleux, hein? Alors le Saint-Père est là et il dit rien, hein? C'est l'année de la foi, faisons ça puisqu'il va y avoir la tunique sans couture et quelque chose qui va faire qu'un pont va être tressé du ciel à la terre pour pouvoir offrir les portes du temps. Alors il ouvre l'année de la foi pour que ça se termine comme ça, par le redressement de la femme, l'humanité tout entière. Écoutez la voix du Saint-Père, sa présence. Il a une présence à l'intérieur de lui, du mystère du temps qui est puissante. C'est pour ça qu'il ne dit plus rien. Et pourtant, il dit bien des choses, hein, bien sûr. Mais on le voit plus silencieux que parlant. Il parle presque plus que l'autre, mais on le voit beaucoup plus silencieux que l'autre. Hein. On ne compare pas. C'est pas comparable, mais c'est comme si tu voulais comparer, je ne sais pas moi, Saint-Pierre et Saint-Jean. C'est, je ne sais pas, si tu voulais comparer, c'est pas comparable. C'est trop bien. C'est Saint-Paul. C'est vrai, c'est génial. En fait, le Saint-Père pour nous, c'est. Le Saint-Père pour nous, c'est tout. Les autres conseilleurs ne nous intéressent pas. Dieu, oui. Ben on va la lire. C'est vrai que je pense que vous êtes d'accord avec moi que de dire quand même. Hein. Allez, je vais lire pendant une demi-heure la Bible. C'est. Ça demande. Je sais pas, ça, c'est plus dur finalement que de passer la serpillière dans toute la maison et de baisser le jardin potager. Et pourtant, ça coule comme du miel. Il y a quelqu'un qui nous empêche. Et ce quelque chose qui nous empêche de lire la parole de Dieu, vous savez ce que c'est? C'est un prince de l'enfer. Vous connaissez son nom? C'est le méchant. Le méchant, c'est une espèce de chape de plomb. Un prince de l'enfer, un des plus puissants, puisque Jésus désigne ce prince de l'enfer comme étant le pire de tous. Jamais un prince infernal n'apporte une désolation spirituelle infernale aussi puissante depuis le début de la création jusqu'à ce jour-là, et de ce jour-là jusqu'à la fin du monde. Oh, hein? C'est génial de connaître le nom de l'ennemi. Quand vous connaissez le nom de l'ennemi, si vous savez où il est, vous savez quel est son nom, donc vous savez où il est. Donc vous prenez votre arbalète, rayon laser, la flèche, même s'il a un gilet pare-balles, ça va, pas de problème. Tous à vos arbalètes. Avec viseur et rayon laser. Oui. Extraordinaire. Avec un stabilisateur en dessous de vous, ça c'est leur raison, parce que la Terre bouge alors. Donc si vous avez un stabilisateur en dessous de vous, c'est leur raison, vous voyez, c'est le petit matelas, toujours pas stable. Arbalète, viseur, rayon laser. Méchaume, il est là. C'est méchaume. Et quand vous savez ce que c'est que le méchaume, parce que ici, vous êtes tous au croc, qui est le aussi méchant même, donc vous savez ce que c'est que le méchaume. Donc il n'y a pas de problème, on est content. C'est spécial, hein? Jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé du Sikoussi Meshomem, hein? Depuis 3 ou 4 jours qu'on est là. Meshom. Mais on est obligé d'en parler. Attends, voilà, petite est courbée depuis 18 ans. Attends. On va pas mettre le couvercle là-dessus. Elle n'est pas si petite que ça. Elle est petite parce qu'elle est courbée, mais sinon, une fois redressée, elle est peut-être plus grande que les pharisiens. Qui font pas, qu'est-ce que c'est? Je trouve ça génial. Je trouve ça génial, la réaction du pharisien. Je sais pas, je trouve ça génial. Mais c'est vraiment génial. La réaction du pharisien, elle est géniale. Mais elle est géniale. Elle est géniale, il se tourne vers les gens. Mais vous savez, les spécialistes disent que les pharisiens parlaient toujours avec une douceur. C'était les disciples de Hillel. Vous savez, il y a 6 jours. Hein. Il y a 6 jours pour le sabbat. Ne venez pas pour vous faire guérir ce jour-là, quand même. Une douceur, une onction, une délicatesse. Ils parlent comme ça. Au fond d'eux-mêmes, ils sont indignés, mais ils parlent avec une douceur extraordinaire. Ils atteignent le cœur des gens. À cause de cette douceur, les pérouchim, les pharisiens, ce sont pas du tout des espèces de charognes. Hein. Pas du tout. Hein. Et il parle comme ça. Il dit, mais vous devriez... Mais la pauvre femme, elle n'a rien fait. Elle n'a rien demandé. Elle n'a pas demandé une guérison. Elle était sous le méchum, c'est tout. Elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. Elle était au milieu, là, dans la synagogue. C'est Jésus qui... C'est Jésus. C'est Jésus. Elle n'a rien demandé. Elle a pas dit, elle s'est pas fait guérir. Hein? Si je ne me trompe pas quand même. Il me semble que il y avait là une femme possédée par un esprit mauvais qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée, absolument incapable de se redresser. Et bien Jésus l'a. Alors Jésus vit cette femme. Il la voit. Et en la voyant, il l'interpelle. Elle a demandé. Femme, te voilà délivrée de ton mal. Et l'autre, il dit, Mais ne venez pas demander des guérisons. Elle n'a rien demandé du tout. L'humanité sous le méchaume ne demande plus rien. C'est le propre du méchaume que de paralyser spirituellement les gens, les rendre sourds, aveugles et paralysés intérieurement. C'est une prise de contrôle, destruction des œuvres de Dieu dans la liberté de l'homme. Jusqu'à la racine, cette liberté du don. Alors, le méchaume, c'est comme ça. C'est fou, hein? Donc, l'humanité ne risque pas de demander la guérison. Cette femme ne risque pas de demander la guérison. Mais Jésus le voit, et c'est lui qui l'interpelle. Et cette espèce de pharisien qui avec une douceur ne venait pas, il y a 6 jours pour vous faire guérir, ne venait pas, il rappelle le commandement de la Torah en disant, vous savez, c'est mieux, très bien, faites-vous guérir demain, ce sera encore mieux, ce sera beaucoup mieux, hein, ce gros nigo. Les théologiens n'ont toujours pas compris qu'on était en plein méchaume. Ça m'impressionne beaucoup. Vous savez, c'est impressionnant. Mais si Jésus sur la terre le voit, il faut qu'il y ait cette interpellation pour l'ouverture du 5e psaume.
Bon, c'est une demi-heure. Ah ben non, quand même une demi-heure. Oui, il est parti la messe qu'on est en train de célébrer. Oui. Ok, mais t'inquiète pas, il est quand même une demi-heure. Donc
ça être... Regardez l'inquiétude.
Pour sortir de nuit, c'est
ça. Produit le mouvement. Oui, ça, on peut l'embrasser. Comprenez ça? Le méchant. Voilà. Dès que vous avez vu le méchaume, c'est que Jésus sur la terre, c'est vous. Et l'interpellation, c'est Jésus. On est autoritaire. Dès qu'on l'a vu, c'est qu'on est autorité. Pour autorité sur ce prince de l'enfer, il y a... Bien sûr, il faut reprendre donc dans le monde nouveau, c'est-à-dire dans l'Immaculée Conception. Il faut que l'Immaculée Conception, dans sa liberté de son corps originel, vienne se conjoindre à la liberté de notre corps originel primordial, les deux ensemble, et ça y est, on est au-dessus du méchaume, et on voit le méchaume, et du coup, on peut interpeller la nature humaine tout entière, l'humanité tout entière. C'est Dieu qui interpelle hein, et dans le Christ. Et voilà, et on retraverse l'opacité invincible du méchaume à partir d'en haut pour visiter l'humanité qui est cryogénisée, paralysée, courbée, si vous voulez. Mais en fait, c'est un esprit à la fois sourd, muet et... Voilà, destruction des œuvres de liberté profonde de Dieu en vous. En même temps, c'est un esprit d'inversion métaphysique. C'est-à-dire, tous les efforts que vous faites pour faire du bien vont servir pour l'Antichrist. C'est terrible, le méchaume. C'est très pénible. C'est impossible de se redresser, hein. C'est pour ça, en même temps, le bon Dieu le permet, parce qu'il dit que comme ça, au moins, ils vont abandonner leurs œuvres. Moi, je fais des œuvres pour Dieu. Ils vont quand même abandonner leurs œuvres. Alléluia. Et ils vont se mettre dans l'Immaculée Conception, et l'œuvre de l'Immaculée Conception, c'est l'union hypostatique des Sœurs de Jésus, l'amour éternellement victimal, et le Père qui agit pour ouvrir un monde nouveau, dans cet univers nouveau du ciel dans la terre. Le corps spirituel pénètre le meshaum et s'inscrit dans la liberté nouvelle. Le règne du Sacré-Cœur et ce mal disparaît de la terre. Il nous suffit de le voir, de l'interpeller, de le dire, et ça suffit. D'accord ? D'accord. Mais c'est marrant, enfin, quand je dis c'est marrant, ça me fait pas rire du tout. C'est énorme cette histoire de Meshaum, hein, c'est énorme. C'est tellement gros que. Chikoussi, Meshaum, c'est tellement gros, ça paraît pas possible, quoi, que ce soit aussi. Je suis sûr que parmi vous, il y a quelques-uns qui ont un petit doute.
Levez-toi.
Un petit doute. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il dit ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il dit ? Est-ce que c'est vraiment clair, net, précis ? Je ne vous demande pas de croire à l'infaillibilité substantielle de ce que je vous annonce. Mais il nous est demandé quand même d'ouvrir les yeux, nos oreilles, notre âme, notre corps originel, pour voir qu'effectivement, c'est la transgression suprême qui s'est installée. Donc j'allais dire, ne croyez personne sur ce sujet. Surtout pas moi. Objet de foi. C'est une certitude. Une certitude n'est pas objet de foi. C'est la différence qu'il y a avec le péché originel. Quand le péché originel a eu lieu, Adam et Ève, qui étaient toute l'humanité de l'époque, entière de l'époque, le péché originel, ils ont bien vu, ils savaient qu'ils avaient fait le péché originel. Hein, et que ça allait méchomiser avec un petit thème cette fois-ci. Hein, c'était un tout petit thème, là, c'est un grand thème. Hein, il allait méchomiser puisqu'il allait enchanter la mort partout. Jusqu'à la fin du monde. Hein, tout le monde va mourir. Et puis ils voyaient qu'ils avaient fait, ils savaient que c'était désastreux. Les conséquences sont beaucoup moins graves que la transgression suprême que nous sommes responsables, nous. Mais imaginez qu'ils n'aient même pas vu. Enfin, attends, c'est inimaginable. Ils ont très bien vu qu'ils avaient fait le péché originel. Ils ont bien vu. C'était fini, quoi. Ils ont eu honte. Et la honte a fait naître en eux des mécanismes de défense. Ils ont caché leur nudité. Et derrière les mécanismes de défense, il y a eu une espèce de sentiment de culpabilité universelle qui s'est inscrit dans les séquelles du péché originel. Et voilà, ils sont rentrés dans le doute. Ils ont perdu la foi et il y a eu quand même l'alliance qu'un jour la foi reviendrait. Ils ont fait pénitence. Voilà, tandis que dans le méchant d'aujourd'hui, eh ben, il y a quelque chose d'un petit peu différent parce que est-ce que nous avons honte ? Non. Est-ce que c'est pas de toute façon, on peut pas faire autrement? Si on peut pas faire autrement, c'est que c'est pas notre faute. Donc il n'y a pas de faute. Est-ce que c'est pas ça? Vous voyez, il y a un climat incroyable. Le démon nous cache tout et on est aveuglé, mais complètement. Et le signe aussi, quelque part, c'est, vous voyez, c'est quand pendant. Le signe, c'est aussi quelque part, regardez, que allez, on va faire en raison, on va se retrouver dans la cinquième demeure, dans la liberté primordiale où Dieu, le Père, nous fait exister dans le sanctuaire et le saint des saints de notre présence dans le temps d'aujourd'hui. Regardez comme c'est difficile. Après avoir entendu pendant 20 ans toujours, mais oui, regardez, il faut faire ça. On ne fait toujours pas en raison de la cinquième demeure. Allez, Cato. C'est pas des Chinois. Hein. Ah, c'est. Et donc on voit bien que non, on n'est pas d'accord de faire autre chose que le méchant. Parce que dès qu'on est dans l'horizon de la cinquième demeure, on est, ça y est, surtout avec la reprise en main du corps primordial. Voilà, du corps spirituel, hein, bon, je dirais, et puis de la liberté dans le don d'origine, selon la parole de Dieu, l'appel de l'Église. Et de la Sainte Vierge. Mais enfin, mes enfants, priez, mes enfants, priez, mes enfants. Immédiatement, vous serez exaucés. Immédiatement, vous savez que ça c'est. Priez comment ? Je suis l'Immaculée Conception. Dans la conception immaculée, de votre conception immaculée, dans l'autre, la dualité des deux, ça ne fait qu'une seule conception immaculée. Ça y est. Vous êtes immédiatement dans la blessure du cœur de Jésus et vous êtes la parole de Dieu vivante, membre vivant de corps Jésus vivant. Vous êtes, c'est Jésus vivant, c'est vous. Sur la terre. La salette. Ah bah, du coup. L'Antéchrist enchaîné. C'est un mystère du rosaire, de la sponsalité, qui fait, oui, enchaîné immédiatement. Et tous les trésors qui sortent du ciel vont pouvoir être reçus du Pâques. Alors, soyez les instruments du règne sacré dans le monde. Belle voix. Plus de bonheur que de voir cette livrée sur chacun de mes enfants. Rien. Voilà. Je pleure parce que mes enfants ne lisent pas la parole de Dieu et ne lisent pas la Bible. Mais rien ne donnera plus de bonheur que de voir cette livrée sur chacun de mes enfants. C'est pas beau ça. Rien. Ah ben alors, c'est pas si difficile que ça. Oh ouais, mais moi j'ai pas envie. Quelquefois ça sort, j'ai l'air de. Non, rien ne me fait plus. C'est vraiment ces deux et mille, c'est l'Immaculée Conception à la puissance de la transverbération de 2000. donné en une seule fois. On porte ça. Et la Sainte Vierge s'occupe du reste pour faire de nous des instruments dans la 5e, 6e et 7e demeure. Pour vaincre l'opacité invincible du méchant pour l'humanité tout entière. Sans rien faire. Instrument, c'est tout. Sans faire aucune œuvre. Ah, je dis oui, hein. Wow. J'ai un petit doute quand même. Quand je me vois. Avec mes problèmes. Tant mieux, si t'as des problèmes, c'est bien. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Tu es beau comme aucun des enfants de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Tu remplis la crainte du Seigneur. Parce que les moyens et les dons pour la victoire sur les princes de l'enfer sont simples. C'est tout simple. T'as pas besoin de dire Seigneur, 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 tu existes, c'est tout là. En sandwich, vous voyez, c'est ce qu'appelle ce Seigneur, t'es en sandwich dans la grâce que Dieu fait pour faire toi un instrument. Bon, alléluia. Non? Je sens que vous n'êtes pas d'accord.
Merci.